Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Côté pile, Marc Lambron est un énarque conseiller d'État qui fut chargé de cours à l'école normale supérieure. Mais côté face, cette âme de rocker follement romanesque a consacré un livre à Michael Jackson. Et entre les deux alors, c'est un secret bien gardé, car Marc Lambron est un homme qui s'épanche peu. Personne ne sait ce que nous sommes, telle est la devise que l'académicien a fait inscrire sur son épée. Mais à défaut de se raconter, l'écrivain excelle dans l'art de faire parler les autres. Dans son dernier livre, il raconte d'autres vies que la sienne, des entretiens réalisés au fil de l'eau avec les plus grandes légendes, Julienne Gréco, Robert Redford, Isabelle Huppert ou encore Johnny Hallyday, des rencontres inoubliables rassemblées dans un ouvrage intitulé « De vive voix ». Et nous avons la chance de le recevoir aujourd'hui dans notre studio pour en parler. Marc Lambron, bonjour.
Bonjour.
Depuis 40 ans maintenant, vous tirez des chroniques savoureuses de notre époque. Votre confrère Éric Orsenna vous appelle même « Monsieur le professeur d'époque ». Et vous êtes un grand portraitiste également. Vous dites que vous entraînez vos interlocuteurs sur le chemin de l'auto-analyse. Est-ce que vous auriez aimé être psy, Marc Lambron ?
Mais d'abord, je vous remercie de souligner mon altruisme. Ce n'est pas une qualité qui m'est toujours reconnue. Donc, est-ce que j'aurais aimé être psychanalyste ? Alors, pour être psychanalyste, il faut avoir été psychanalysé avec des procédures assez longues. Chez les lacaniens, ça s'appelle la passe. Et c'est assez redoutable. Donc, comme je n'ai jamais fréquenté les divans, déjà, ça coupe court au désir de l'être. Après, je ne vais pas vous dire ce que disait prétentieusement Nabokov, qui était rétif au charlatan viennois, comme il appelait Freud, en disant « je ne voudrais pas me raconter à quelqu'un qui serait moins cultivé que moi ». Bon, mais il y a quand même des psychanalystes très cultivés sur la place. Mais au demeurant, non, parce que là, vous voyez bien que, d'ailleurs, ce n'est pas de l'auto-analyse, c'est précisément un livre des autres, et c'est ça qui m'intéresse. Alors après, oui, je pourrais vous dire plus avant que j'ai pu singer des techniques analytiques, ou l'idée que j'en ai, au cours de ces entretiens, qui sont des travaux d'extorsion, de confidence, mais en douceur.
Toujours en douceur.
Toujours en douceur, toujours en douceur. La voix. Dans la psychanalyse, il y a une pratique qui est l'hypnose, qui a été développée par exemple, Léon Chertok ou Serge Leclerc. Donc, ça, j'aime bien le côté hypnotique, hein, le côté Madame Irma dans Tintin.
Et dans une récente interview, vous parliez même d'acupuncture, je crois bien.
Oui, d'acupuncture verbale, c'est vrai. On peut chercher des points d'intimité et si on les trouve, eh bien, la chair parle, c'est-à-dire la langue s'agite.
Alors peut-être avez-vous été un auditeur de Radioscopie, l'émission qui tentait de saisir l'indicible chez les autres. Pour interviewer, il y a la méthode Jacques Chancel et puis la méthode Marc Lambron. Vous dites qu'il y avait deux écueils principaux à contourner quand vous prépariez vos entretiens, la complaisance et les pattes. Alors permettez-moi de prendre des conseils, comment bien les éviter ?
Radioscopie. Alors d'abord, il faut une petite mélodie pour ouvrir. Il y avait aussi des chansonnettes qui scandaient l'entretien, qui duraient une heure. Et en effet, j'avais 12-13 ans, je me souviens très bien d'écouter, c'était à 5h, 17h tous les jours, les radioscopies de Jacques Chancel. D'ailleurs, je vais le dire aujourd'hui, il disait que celle où il avait dû passer le plus de musique pour combler les vides, c'était Françoise Hardy, bizarrement. Et bon, quand il y avait Malraux ou Salvador Dali, là, il se taisait. Donc, votre question, c'est quoi ? Est-ce que j'ai été inspiré par Chancel ou
non, vous dites qu'il y a deux écueils à contourner, la complaisance et les pattes. Comment on les évite ?
La complaisance ou les pattes, puis il y en a un troisième, je dirais que c'est l'Inquisition. La complaisance ou les pattes, c'est d'ailleurs, ça s'est arrivé comme un ébahi devant l'étoile qui condescend à vous parler. À ce moment-là, de lui cirer les pompes pour parler familièrement. Ou les pattes, c'est d'être trop figé, trop comme paralysé par le regard d'un, je ne sais pas, du serpent K, et pour omettre par timidité de poser les questions qu'on a envie de poser. Bon. Et la troisième écueil, ça serait d'être trop inquisitorial, parce que dans ces cas-là, l'expérience démontre que assez vite, le sujet se ferme ou vous soupçonne d'être d'une sorte de brigade journalistique quasi-policière. Donc, il y a d'autres façons d'aborder par les surfaces douces une conversation, parce que pour moi, l'idée de ces entretiens qui ont été conduits sur, en effet, des dizaines d'années. Je crois que le plus ancien, c'est Moravia, 1989. Et le plus récent, je crois que c'est Mario Vargas Llosa, 2018, quelques temps avant son élection à l'Académie française. Voilà, vous voyez, comme en me parlant, il a pu être élu. Bon. Alors.
Et vous nous offrez 50 entretiens avec les plus grands. On l'a dit, Juliette Gréco, Jeanne Moreau, Charles Aznavour. Je suis très curieuse, quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué?
Il y en a plusieurs. D'abord, il y a des récurrents, il y a des abonnés. C'est-à-dire qu'il m'a été donné d'interroger Jeanne Moreau 3 fois, oui. Karl Lagerfeld 3 fois, Juliette Gréco 2 fois, Isabelle Huppert 2 fois. Donc, c'est assez d'ailleurs amusant de voir si les propos varient ou ne varient pas, ou au fond la diversité de profils qu'un même interlocuteur peut offrir à travers une conversation qui n'est pas la même. Donc, j'ai une certaine dilection pour... par exemple, Moreau était une parleuse magnifique, parce qu'elle était intelligente, elle était hypermnésique, elle était libre, et elle avait un très bel usage du français que j'aimais solliciter comme sur des médaillons, c'est-à-dire que je lui lançais un nom ou une circonstance. Je ne sais pas comment était Alain Delon sur le tournage de Monsieur Klein, comment avez-vous amené Orson Welles à tourner Le Procès dans la gare d'Orsay, qui était alors désaffectée, comment était Roger Nimier. Donc c'est souvent ça. Et vous appuyez sur le bouton mémoriel, et avec certains d'entre eux, en effet, vous avez tout de suite la silhouette, l'estampe verbale. Mais je l'ai dit un peu dans la préface, c'est que mon propos... Alors, il y avait toujours un prétexte ou un leurre, c'est qu'en général, d'abord, je n'ai pas obtenu ces entretiens par moi seul, il y avait toujours un prétexte de presse. Donc j'étais missionné par tel ou tel organe de presse, et il parlait parce que c'est l'exercice qu'on appelle horrible mot, la promo.
D'un film,
D'un film, d'un livre, d'une exposition. Donc, c'était le prétexte, ou c'était l'amorce, ou c'était l'hameçon. Et puis, après, profitant par réfraction du temps qui m'était accordé, très vite, il m'intéressait d'essayer de susciter une sorte d'autobiographie, de brève autobiographie verbale. Donc, il y avait des questions qui étaient des questions en réalité assez simples, à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire d'où venez-vous, où vouliez-vous aller et comment y êtes-vous parvenu. Autrement dit, c'était une incitation à une sorte d'auto-récit, d'auto-analyse, ce qui pour moi donnait le prix presque littéraire de ces entretiens, qui étaient moins des interviews que des conversations quand ça prenait. En ajoutant une chose, c'est que nombre de ces personnages étaient moins formatés, moins paramétrés dans l'exercice de l'entretien promotionnel qu'on l'est maintenant. Parce que j'en fais beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'on est passé beaucoup dans ce qu'on appelle en anglais les press junkets, c'est-à-dire une sorte de taylorisme de la promotion, où en gros vous avez une étoile internationale qui vient à Paris, il est dans une suite d'hôtels, et vous avez des attachés de presse qui vous minutent. Ce sont des entretiens avec Sablier dans une succession qui dure un ou deux jours et où ils voient une bonne partie de la presse écrite ou télévisuelle. Bon. Quand d'ailleurs l'agent ou l'attaché de presse n'est pas dans la pièce. Bon. Donc là, j'ai un peu déchanté. Mais en ce temps-là, et ça renvoie aussi, je pense, à la génération à laquelle ils appartenaient, il y avait une certaine latitude dès lors que ça prenait. Et je sais pas, par exemple, Charles Aznavour, j'avais 1 heure de temps à peu près, et ça a duré 2 heures et demie, parce que nous étions partis, embarqués. Et donc, il y avait ce plaisir, au fond, d'étonner et d'être étonné. Et pour étonner, un truc presque, assez simple, ça consistait à préparer très bien les entretiens.
Qui est l'une de vos 3 règles, d'ailleurs, pour bien interviewer quelqu'un.
Voilà, ben, la première règle, oui, parce que, c'est pas, si vous voyez un acteur... Il a une filmographie nourrie. Il y a toujours dans cette filmographie des films auxquels il a prêté autant de soins, d'engagement quand il les tournait, mais qui ont été des insuccès, qui sont un peu oubliés. Mais si vous évoquez précisément tel film, là c'est de l'acupuncture, parce que ça va leur rappeler un épisode ou un moment auquel ils peuvent tenir, mais qui n'a pas été reconnu ou gratifié comme il l'était. Et puis ils se disent, oui, celui-là, finalement, c'est curieux, mais il sait des choses. Donc, quand vous vous placez en posture de sachant, ça peut ensuite déclencher des... Par exemple, il y a 2 muets, j'ai 2 scalpes de muets, des hommes qui passent pour être notoirement assez retenus, mutiques, et pour parler
qui ça
rarement. Le premier, c'est Sammy Frey. Eh bien, il se trouve qu'avec Sammy Frey, ça s'est bien passé. Il me dit des choses sur le passé de sa famille, par exemple, qu'il n'aime pas forcément détailler. Et l'autre, c'est un couturier qui passe pour mutique. C'est Eddie Slimane. Et je ne sais pas pourquoi, ça s'est passé comme ça, ou peut-être je tombais un bonjour. Il est toujours dans sa tour d'ivoire, enfin, en tout cas, c'est la réputation qu'il a. Et là, il a été éloquent et très intéressant, parce qu'il m'a fait une espèce de théorie de la mode, et en tout cas d'autodescription de sa pratique.
Alors, il y a eu Eddie Slimane, vous l'avez cité, Samy Frey, Miu Miu aussi, l'actrice qui vous a dit un jour, au cours d'une de ses interviews, « Moi, je n'aime pas les livres biographiques sur les autres, je suis contre Sainte-Beuve. » Alors, Sainte-Beuve, qui était critique littéraire, pour qui l'autobiographie était un aspect important pour comprendre l'œuvre d'un écrivain. À vous lire, on a l'impression que vous êtes plutôt pour Sainte-Beuve, non ?
Ah, ça, c'est une bonne question. Oui, parce que je suis un peu concierge. Alors, les concierges sont, vous aurez remarqué, sont assez sainte-beuviennes. Il n'en manque pas à Paris, dans les loges ou ailleurs. Ben, si vous voulez, l'œuvre d'un écrivain ou d'un plasticien ou d'un peintre, quand je vois Gérard Garouste, la vérité, en effet, contre Sainte-Beuve, elle est dans ses tableaux. Quand je vois Moravia, la vérité, elle est dans ses livres. Donc, ce qui m'est laissé en partage, c'est précisément le fil, ce que Barthes appelait les biographèmes. Donc oui, c'est assez juste. Je me place en situation sainte-beuvienne, parce que si je vois, je sais pas, Robert Redford, dont vous parliez, je ne vais pas lui demander comment c'était de tourner Les Hommes du Président, parce que j'ai vu le film, mais je vais lui demander par exemple ce que ça signifiait pour lui à ce moment-là dans la vie américaine, à l'époque de Nixon et du Watergate. Donc c'est pas seulement de la biographie, mais c'est aussi des éclairages latéraux, parce qu'autour du film, il y a quand même précisément, il y a un plateau, il y a une mise en scène, et ce qui m'intéresse au-delà de la mise en scène, c'est précisément souvent, oui, l'homme ou la femme qui se prête, et souvent corporellement, c'est vrai des chanteurs, c'est vrai des acteurs, et d'ailleurs c'est vrai des artistes aussi, parce que quand je parle avec Françoise Gillot, puis il y a ça aussi, il y a la mémoire transmise, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, en fait. C'est le côté mémoriel. Si je vois Juliette Gréco, je sais pas, elle va me parler de Miles Davis, d'ailleurs Jeanne Moreau aussi. Si je vois Faye Dunaway, elle me parle de Steve McQueen. Si je vois François Gillot, un de mes entretiens préférés, elle me parle évidemment longuement de Picasso. Donc en fait, ce sont des relais de mémoire. Et en réalité, nombre d'entre eux ne parlent pas d'eux, ils parlent des autres. C'est comme des poupées russes, quoi. C'est de l'altérité dans l'altérité, à travers le verbe.
Vous dites, j'ai compris avec le temps que je suis un être d'archives. Vous le dites en préambule de ce livre, oui. Vous faites référence aux archives des autres, c'est ça ?
Je fais référence aux archives, à mes archives. C'est-à-dire que, bon, écrire, c'est toujours, écrire ou toute activité artistique, au fond, à mon avis, est quand même mue par le désir de trace. Donc, d'une façon ou d'une autre, quoi que ça vaille, il y a toujours cette idée qui probablement, d'ailleurs, s'accentue avec le temps. C'est quelque chose de son passage. Donc, il y a de multiples façons de le faire, c'est-à-dire d'inscrire cette vie dans des supports plus pérennes. Vous savez, Oscar Wilde disait d'un de ses amis, n'ayant pas trouvé d'éditeur, il a choisi d'écrire pour la postérité. Donc, moi, j'ai trouvé un éditeur, je n'écris donc pas pour la postérité. Mais j'écris sans doute au moins pour, par exemple, un hypothétique arrière-petit-fils ou fille qui un jour dira « Qu'est-ce que c'était que ce type étrange qui vivait dans les années... entre les années 60 du XXe siècle et puis j'espère assez tard au XXIe. Et qu'est-ce qu'il racontait, qu'est-ce qu'il a vu ? D'où le goût que j'ai en effet, par exemple, pour le journal de plus en plus, le genre du journal, parce que c'est une façon d'inscrire tout, enfin, une banalité de vie, mais qui peut entrer en coïncidence, comme c'est le cas en ce moment, ces jours-ci, avec une histoire nationale, en l'occurrence, en train de se faire. Le goût que j'ai de rassembler, ça s'appelle les carnets de bal, j'ai fait 4 recueils jusqu'alors, les différentes chroniques qui ont été essaimées ça et là, et que je mets en bouquet. Et donc là aussi, le fait d'avoir fait ce livre des autres, de vive voix, donc c'est ça, c'est de la transformation, c'est-à-dire il y a de la voix au départ, et puis il y a de la transcription, parce que après, concrètement, j'enregistrais, où que ça se passe, je décryptais, comme on dit, je transcrivais, et puis ça donne de l'écrit. Ce qui est le propre de l'entretien. Alors d'ailleurs, certains de mes amis me soupçonnent, voire m'accusent d'avoir réécrit certains entretiens.
Je me suis posé la question, justement, parce que les réponses sont très poétiques, sont très belles.
Oui, mais
c'est personnes que vous avez interviewées.
Oui, mais il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut pas prendre, par exemple, les actrices pour des quiches et sous-estimer leur...
Non,
il y a des raisons à ça. Bon, si les seules choses que je peux dire avoir écrites un peu plus que les autres, c'est quand je vois, je ne sais pas, Woody Allen ou Faye Dunaway, parce que là, ça se fait en anglais, et après, je traduis.
Bon.
Mais non, si vous prenez par exemple les actrices, il y a beaucoup d'actrices hein, françaises ou étrangères, Isabella Rossellini, Claudia Cardinal, bon. Mais dans cette génération, et ça vaut pour Adjani ou Huppert aussi bien, et quelques autres plus jeunes, elles sont allées à plusieurs écoles. À part Deneuve, qui n'a jamais fait de théâtre, elles ont toutes, et souvent très jeunes, commencé par le théâtre. Et quand vous êtes une actrice française ou britannique, d'ailleurs, vous mettez Shakespeare en bouche ou vous mettez Corneille, Musset, Giraudoux. Donc, il y a un rapport très intime, hein, très travaillé avec la langue française et avec la belle langue. Ça, ça compte. Après, nombre d'entre elles avaient été dirigées par des cinéastes qu'on pourrait dire très imprégnés de littérature. La génération Godard, Truffaut, Louis Malle, Tavernier, parfois elles avaient vécu d'ailleurs avec certains d'entre eux. Donc évidemment, il y avait un concubinage lettré, si j'ose dire, avec des grands réalisateurs. Et puis, dernière chose, c'est que oui, le nombre d'entre elles, je fais parler de leur lecture souvent. Voilà, donc il y a des raisons. Et à cette poésie, en effet, du plus, le plaisir qui est un plaisir assez français, et que nombre de ces... Enfin, ça peut aller au-delà de la France, d'ailleurs, mais qui est simplement le plaisir de la conversation, comme nous en tenons une en ce moment. Et dans la conversation, il y a des bifurcations, il y a de l'imprévu, il y a des blancs, et parfois, il y a des inspirations, et certains d'entre eux se mettaient à... Ça déclenchait ce qu'on appelle des anamnèses, c'est-à-dire des souvenirs, des restitutions de choses vues.
Avec une belle langue et de belles voix aussi. Le livre s'appelle « De vive voix » et j'insiste sur ce mot « voix » parce que vous êtes aussi un homme de radio, Marc Lambron. Quels sont les timbres de voix ? Est-ce qu'il y a des timbres de voix qui vous ont particulièrement marqué ? Catherine Deneuve avec ce phrasé si particulier, par exemple ?
Par exemple, c'est assez... comme ça, intéressant. Vous voyez Charles Aznavour, donc il ne va pas chanter. Il ne va pas chanter ses réponses.
Il aurait pu.
Mais il y a cette voix, il en parle d'ailleurs, comment il a travaillé sa voix. Donc il me parle de sa voix avec sa voix, par définition. Et comment il se définit comme étant l'homme d'une disgrâce surmontée. Et comment aussi, mais ça c'est la génération des crooners, de manière générale, comment est-ce que le micro a modifié le rapport à la chanson et au public. Parce que si vous êtes en 1900, Caruso ou Mario Lanza, évidemment, il n'y a pas de micro. Et l'invention du micro permet précisément des modulations, de chanter mezzo voce. Donc la technique aussi est venue au secours de certaines voix qu'on aurait pu juger comme déficientes en d'autres temps. Il n'y a pas que des chanteurs de Gualante, justement. Est-ce que des voix, oui. J'ai gardé les cassettes. Hein, tout ça était un
oui,
peu...
Oui, vous avez tout enregistré.
Oui, oui, il n'y a pas de téléphone intelligent, donc c'est enregistré sur des bandes, des cassettes. Et je les ai, peut-être que je les mettrai en ligne un jour. J'ai donné à la Maison Chanel les 3 entretiens avec Lagerfeld pour qu'ils les rangent dans leurs archives.
Et alors, après toutes ces années, je dirais même ces décennies qui vous ont fait rencontrer la Terre entière, vous dites que vous n'avez jamais eu à essuyer une impatience, une arrogance de la part d'un interviewé. On a du mal à vous croire.
Écoutez, je ne suis pas un mufle, eux non plus, ils avaient quand même souvent quelque chose à défendre. Ils ont été tout à fait urbains, aimables. Il y a une exception, enfin, c'est pas de l'amabilité, c'est de la paranoïa. Mais c'est quelqu'un que je connais mieux depuis lors, c'est Isabelle Adjani. Mm-hmm. Et Isabelle Adjani me dit, vous êtes écrivain ? Je dis, j'espère. Mais alors, parce que si vous êtes écrivain, vous allez écrire. Et donc, elle refuse le magnétophone. Je pense parce qu'elle avait peur, probablement, que, disant des choses qui auraient pu lui échapper, elles soient ensuite gravées, que je puisse les transcrire et les lui opposer. Bon. Donc, je me suis transformé en dactylo. Et donc là, c'est un entretien qui a été fait, comme ça, par note assez, assez rapide, que j'ai restitué ensuite. Mais c'est la seule fois où il y a eu une allergie microphonique, si j'ose dire. Le reste du temps, non. Alors après... Peut-être l'entretien, mais il n'est pas dans le livre, parce que j'en avais fait un texte.
C'est lequel ?
C'était Hillary Clinton. Alors, Hillary Clinton venait présenter ses mémoires à Paris. Elle est dans toujours un grand hôtel de la rive droite. Et là, alors là, c'est du grand professionnalisme américain. Elle avait fait aménager 2 studios, enfin 2 suites en réalité, contigus. Donc l'une était pour la presse écrite, l'autre pour la presse radiophonique, il y avait un micro-studio. Donc elle n'arrêtait pas de passer de l'un à l'autre, à l'entretien ici, à l'entretien là. Et moi je me trouve avec elle donc pour la presse écrite. J'enclenche le magnétophone et je le pose sur la tablette qui nous séparait. Et il y a une main qui arrive derrière et qui pose un petit magnétophone également enclenché. Et en fait elle faisait archiver par sa suite, son entourage, tous les entretiens pour pouvoir corroborer ou démentir si quelqu'un inventait. Puis il y avait un cerbère, il y avait un garde du corps qui était derrière, et au bout d'un certain temps, il me fait ce geste, on ne le voit pas à la radio, il me montre trois doigts. Je n'ai jamais su si ça voulait dire il vous reste trois minutes ou vous avez encore trois questions. En tout cas, il y avait un sablier humain qui était derrière Hillary Clinton, au demeurant fort aimable et fort professionnel dans, le,
comme
dans,
on peut imaginer.
Dans l'exercice.
Vous le disiez tout à l'heure, vous avez réalisé ces entretiens entre les années 90 et les années 2010. Vous dites qu'ils témoignent d'une liberté disparue. On en a un peu discuté déjà tout à l'heure.
Oui.
Est-ce que vous auriez pu nommer ce livre Le Monde d'avant ?
Ben ça, c'est le livre...
précédent, c'est pour ça que je vous pose la question.
Précédent. Oui, qu'est-ce qui est perdu ? Alors, évidemment, la dimension la plus évidente de perte, c'est que nombre d'entre eux ne sont plus là. C'est-à-dire, on parle de Juliette Gréco, de Jeanne Moreau, de Karl Lagerfeld, de Raymond DeVos... j'en oublie sans doute, François Gillot, Moravia, Tom Wolfe, Martin Amy, ces écrivains. Donc il y a quand même cette dimension qui fait de l'archive précisément.
Alors vous dites en revanche que vous n'êtes pas décliniste pour autant. Non, ce n'était pas mieux avant. Alors qu'est-ce que vous aimez dans notre époque ?
Qu'est-ce qui me plaît dans le monde de maintenant ? C'est précisément d'y être. Il y a une philosophe espagnole, Ortega y Gasset, qui a laissé cette phrase « Je suis moi et ma circonstance ». Bon, ben vous êtes vous et votre circonstance. Vous n'avez pas forcément choisi la circonstance. Mais en même temps, il vous incombe d'habiter l'époque où le hasard vous a fait, et l'amour vous ont fait tomber. Bon, donc, je ne vais pas, par principe, me couvrir la tête de cendre, me voiler la face en me disant que c'était mieux avant. D'abord, ce n'est pas forcément vrai. Et je trouve, par exemple, que les Français ont la mémoire courte, comme on dit. Moi, j'ai été élevé dans le souvenir. J'ai connu mon arrière-grand-mère. Elle était née en 1885. Elle est morte en 1974. Donc, j'étais adolescent. J'ai eu largement le temps d'écouter ce qu'elle me disait. Bon, 85, elle était née. Elle avait vu la naissance de l'automobile, du cinéma, d'une aviation balbutiante. Elle avait traversé une première guerre, puis la guerre après. Bon, je ne veux pas dire qu'une vie française entre 1900 et 1970, mettons, était une partie de plaisir. Donc, cette façon de fétichiser un passé qui, par définition, serait heureux, tient largement de l'illusion rétrospective. Vous savez aussi, ça a été dit par quelques philosophes anciens, qu'on a tendance à confondre l'avancée d'une vie avec le déclin d'une civilisation. Mais ce n'est pas parce qu'on gagne en âge qu'on tombe forcément dans la décadence. Sinon, depuis 2000 ans, nous serions vraiment très, 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 très décadents et très bas. Bon, après, vous avez tout loisir. Vous avez le luxe dans une civilisation comme la nôtre, quand vous n'êtes pas trop cerné par le malheur, de vous inventer des bonheurs. C'était une règle que m'avait confiée il y a longtemps mon camarade Eric Orsona. Il m'avait dit un bonheur par jour. Bon, mais ça peut se décréter, mais à force de décréter, vous allez voir que vous allez les percevoir, les bonheurs. Donc c'est une question de focale, c'est une question de filtre, comme on dit au cinéma. Est-ce que vous mettez des filtres sombres ou est-ce que vous mettez des filtres plutôt roses ? Voilà. Autrement dit, ça pose la question du bonheur. Et bon, mais j'ose dire contre l'époque que tout n'est pas en banqueroute, qu'après tout, c'est sans doute égoïste, mais toute existence est insulaire en même temps. Donc vous avez le droit d'aménager votre île et de choisir votre Robinson. Ou votre Robinson.
Sur votre épée, vous avez fait graver la devise suivante. Nadie sabe lo que somos.
Ouais.
Personne ne sait qui nous sommes. Ce sont toutes vos interviews, toutes ces rencontres qui vous ont convaincu de cela ?
Que personne ne sait qui nous sommes ? Oui, alors il y aurait ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un noyau de mystère sur quelque chose qui est impénétrable. Et même le langage achoppe parfois sur quelque chose qui ne sera pas dit, soit parce qu'il y a du latent, il y a du caché, soit parce qu'il serait bien présomptueux de dire qu'on peut soi-même, par l'autoportrait, tout dire de soi, même si des grands écrivains y sont parvenus. Je pense à Rousseau, par exemple, qui fait ce vœu et qui, sans doute, y parvient. Nadie sabe lo que somos, c'est une devise des anarchistes espagnols. Et en fait, ça voulait dire deux choses. C'était une parole anti-déiste, c'est-à-dire n'allez pas croire que Dieu, comme vous le racontent les prêtres, c'est tout de nous. D'ailleurs, il n'y a pas de Dieu pour les anarchistes, ni Dieu ni maître. Et puis, ça voulait dire aussi... nous-mêmes, enfin bon, on est toujours dans un rapport d'incertitude qui peut dire se connaître. Voilà, si je faisais une psychanalyse, ce que je ne ferais sans doute jamais, peut-être que je découvrirais des toiles d'araignée que je ne connaissais pas dans les coins. Puis il y a cette idée de transparence. Transparence est l'obstacle, comme justement le livre de Starobinsky sur Rousseau. Le XXe siècle nous a plutôt rendu sensibles aux opacités, aux latents, aux choses cachées. Et évidemment, Freud est le grand excavateur de secrets.
D'où le masque vénitien que vous avez fait graver aussi.
Le masque vénitien, c'est le goût de, d'abord, Nadia Sabelo Casomos, ça c'est l'Espagne, et Venise, c'est l'Italie, c'est le bal masqué, c'est en effet les choses, à la fois la fête et en même temps le leurre. Comme dit Nietzsche, le masque du masque, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Vous pouvez être masqué en abîme, en quelque sorte.
Alors, dans ce livre, vous avez fait plusieurs catégories. Il y a des actrices, des acteurs, les rock ladies comme Patti Smith, les fashion et les designers. Est-ce que vous avez une catégorie préférée, les écrivains? Est-ce que vous vous sentez plus proche des écrivains?
La catégorie des... la famille des écrivains, c'est peut-être une des moins représentées parce que, d'abord, il s'exprime par écrit. Si je vois Serge Reggiani, bon, il a peut-être écrit un vague livre de mémoire, mais enfin, l'oralité est quand même le vecteur de ce qu'il a envie de dire. Les écrivains, on les lit. Et puis peut-être, j'en ai vu beaucoup, il n'y a pas d'écrivain français, par exemple. Il n'y a que des sortes d'icônes internationales que je cueille au passage. Le propos, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le propos principal, même si ce que dit Moravia, ce que dit Tom Wolfe est très drôle. Bon, en réalité, j'étais missionné. Un des journaux pour lesquels j'ai travaillé, c'était Madame Figaro. Et Marie-Claire Powels, à l'époque, me dit « Je vais faire de vous mon préposé aux belles femmes. » Bon. Très bien, c'était il y a une trentaine d'années, au moins 35 ans, c'était une mission agréable, et heureusement, ça a débordé, c'est allé au-delà des belles femmes. Oui, la chose avec les actrices ou les acteurs, c'est que, évidemment, vous les avez vues, moi depuis l'enfance, dans l'enfance lyonnaise, certains d'entre eux, je ne sais pas, Claudia Cardinal, Catherine Deneuve, je les voyais dans des films, mais c'était très loin. Et en même temps, ils sont souvent nimbés des personnages qu'ils ont incarnés. Cette espèce de polymorphie. C'est-à-dire, si je vois Adjani, je peux voir la nièce de l'École des femmes, enfin, qu'elle a été à la Comédie française, qui a été filmée, mais je peux voir l'actrice de Mortelle randonnée, mais celle de L'été meurtrier, mais celle de La Reine Margot, mais bon, c'est assez intéressant. D'abord, faire du Sainte-Beuve, c'est-à-dire de voir où ils sont par rapport à, en termes d'identité, par rapport à cette pluralité de masques, d'avatars qu'ils ont incarnés par profession. Donc nombre d'entre eux en réalité sont dans des lisières entre ce qu'ils peuvent être en chair et en os et les fictions où on les a découverts. Donc il y a un jeu entre le 2D, la 3D, la présence, le passé, parce que quasiment tous, ils ont un passé. Donc c'est aussi un jeu temporel, en réalité. C'est-à-dire, si je vois Isabelle Huppert, elle a été dans Le Juge et l'Assassin, elle a été dans La Porte du Paradis de Cimino, elle a été dans le film de Chabrol. Bon, il y a une carrière, il y a du révolu, et en même temps, c'est le présent. Donc il y a ici et maintenant, et il y a une charge de mémoire portée par à peu près chacun de ces individus, et qui parfois, au présent, par exemple, Raymond Devos, il m'invente un sketch de Raymond Devos. Ça n'a pas été filmé, malheureusement, mais c'est chez lui. Et il me fait l'homme qui entre sur une scène de théâtre où il y a une gouttière au plafond. Bon, alors on peut imaginer ce que ça peut donner chez Raymond Devos. Et il m'explique en mimant comment... même s'il n'y a personne en coulisses, il suffit que le Devos se tourne et fasse mine de s'adresser à cette personne pour qu'on pense qu'il y en a une. Voilà. Donc il y a des exercices presque de magie comme ça auxquels certains se livrent.
En revanche, il n'y a pas d'homme ou de femme politique dans ce livre. Pourquoi?
Est-ce qu'il faut vraiment que je vous réponde? Eh bien, parce que je pense que l'entretien, je ne suis pas sûr que j'en ai jamais fait d'ailleurs. Si j'en ai fait un, je crois, une fois avec Alain Juppé, j'avais été missionné pour ça. Alors là, je les trouve pour le coup. Aussi bien là, il y a un certain nombre d'acteurs qui arrivent à baisser le masque ou qui ont un certain plaisir aussi, je dois dire, à parler d'eux. Bon, qui ne l'a pas? Les hommes politiques sont quand même toujours souvent en représentation. C'est-à-dire que, donc, ils sont trop contrôlés, il y a trop de surmoi, il y a trop d'intérêts qui sont engagés. Maintenant, on parle même d'éléments de langage. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas affaire forcément à un être humain, on a affaire à un discours formaté. Bon, il m'est arrivé, j'ai écrit une sorte de petit essai, des petits essais satiriques là, sur Ségolène Royal.
Et Nicolas Sarkozy aussi.
Ça m'avait amusé à cette époque-là, mais il y a au moins une vingtaine d'années. Ils sont à peu près de ma génération, à quelques années près. Donc là, de faire un fusain, quoi, de prendre la photographie, d'archiver précisément ce qui pouvait être et les raisons aussi pour lesquelles il prenait l'importance qu'il prenait dans la vie nationale. Parce que ça m'intéresse toujours, ça, le pourquoi, au fond. Mm. L'étiologie des choses ou des réputations. Et qu'est-ce qui fait qu'un être humain fait saillie à un certain moment, s'impose.
Alors, vous venez de parler d'archives. Vous enregistrez, mémorisez notre monde par l'écriture. Est-ce que vous êtes sensible à d'autres façons d'archiver, la photographie, par exemple, ou la vidéo ?
Oui, ça, c'est une manie. Je me promène à peu près tout le temps avec un appareil photo numérique dans la poche et de plus en plus, évidemment, avec mon téléphone, qui fait des photos de très bonne qualité. Donc, je suis, comment dire, un esclave des pixels, ou en tout cas, quelqu'un qui est en marge, par exemple, du journal que je peux tenir et publier parfois, j'ai des milliers de photos qui forment, je ne vais pas dire un roman photo, mais en tout cas, là, pour le coup, un récit de soi-même. Mais je ne suis jamais sur mes photos, c'est les photos des autres, là aussi. Mmh. Et donc, il y a une galerie, je pourrais un jour, peut-être je le ferai, ou même assez vite, une exposition, un album, où si on reprend toutes les catégories qui sont ici, et certains des personnages d'ailleurs qui sont dans ce livre, il y aura le corollaire, le contrepoint photographique. Et pour le coup, il y a quelques hommes politiques. Parce que là, tant qu'ils ne parlent pas, mais qu'ils se prêtent à la focale ou à l'objectif, tout va bien. Et puis après, on peut les décrire. Oui, c'est comme toute proportion gardée, comme le grand ciel. Vous avez des portraits par des grands de l'époque, par Lebrun, puis après, vous avez le cardinal de Retz ou Saint-Simon. Ce n'est pas d'aujourd'hui, au fond, qu'il y a cette dualité, ce diptyque possible entre le portrait, l'image et l'écrit. Mmh. Aussi longtemps que nous serons civilisés, il pourrait y avoir les deux. Donc oui, je suis sensible, par exemple, à cette espèce de stéréophonie qu'on peut avoir sur un personnage, souvent un personnage historique, entre ce qui en a été écrit, ce que parfois il a écrit lui-même, et puis les portraits. Et alors tout ça, évidemment, c'est démultiplié avec la photographie et puis le film. Bon, donc maintenant, il y a des documentaires vraiment passionnants où il y a de l'archive. Et puis la phonographie, parce qu'on n'a pas d'enregistrement de Liszt au piano, mais on a des enregistrements de certains de ses élèves qui jouaient vers 1920-1925. Et donc, je trouve que c'est vraiment une bénédiction. C'est pour ça que je ne vais pas vous dire que c'était mieux avant. Mais je trouve qu'une des bénédictions des gens de nos âges, enfin, du mien et après, c'est d'avoir été des contemporains de la photographie, du cinéma. Ma arrière-grand-mère, qui est née en 1885, elle naît 10 ans avant l'invention par les Frères Lumière, en 1895, du cinéma. Donc la constitution du XXe siècle, par le XXe siècle, et puis la musique, évidemment, là, c'est océanique. C'est magnifique de pouvoir entendre Bessie Smith ou Jimi Hendrix ou Walter Gizzy King, même Apollinaire. Vous savez, il y a un rouleau, on entend Apollinaire qui récite sur le pont Mirabeau. Il y a même Tolstoï. Il y a une bande qui a été faite, il parle en français et en russe, un an avant sa mort. Il n'y a pas Proust, en revanche.
Est-ce que vous écrirez un jour vos mémoires ?
Je ne suis pas sûr que je vais écrire des mémoires sur un mode coagulé, si j'ose dire. Mais je fais compter, en quelque sorte, tous ces différents livres, ces différentes facettes d'écriture, comme une sorte de petit massif mémoriel. Donc ça vaut des compilations, des textes d'analyse, de critiques, de chroniques. J'ai beaucoup de critiques littéraires, de chroniques d'art maintenant. Bon, ça s'appelle les carnets de bal, je danse. Ça vaut des journaux et ça vaut aussi de ce stock de choses à la fois parlées, écrites. Donc ça va déjà, j'accumule plus quelques livre à teneur autobiographique, il y en a un sur mon frère disparu, il y en a un sur mon adolescence à Lyon, il y en a un sur ma mère et ses sœurs, enfin sa sœur, le monde d'avant. Bon, donc je donne trop dans le temps finalement. Donc les mémoires, ils sont, parce que c'est un masculin, sont épars pour l'instant.
Alors, à défaut d'avoir vos mémoires, je voulais finir l'interview avec un questionnaire autoportrait de vous.
Allez-y.
En fait, j'ai repris des questions que vous avez l'habitude de poser à toutes ces personnes.
Mais comme je n'ai jamais été perfide, elles vont être très gentilles.
Alors, votre principal trait de caractère ?
La curiosité.
Ce que vous détestez par-dessus tout ?
Par-dessus tout, à part les fromages trop offensifs, ou la canaillerie, je dirais, les canailles, oui. La canaille, comme on disait.
Le compliment que vous aimez entendre.
Si on loue ma modestie, parce que c'est rare.
Vous êtes capable d'extravagance ?
Ah ben je crois, oui, mais je ne vous dirai pas forcément lesquels, mais enfin oui, faites-moi confiance.
Vous dansez ?
Ah, je danse maintenant ? Eh bien, je danse beaucoup dans ma tête. Hein. Mais je peux danser aussi. Mais je ne vais pas danser à Ibiza dans des cuves avec des DJ.
Ah bon ?
Non, non, mais je peux danser, oui.
Qu'est-ce qui vous fait rire ?
Ah, qu'est-ce qui me fait rire ? Je vais vous dire un truc, je le connais bien, il est quasi lyonnais comme moi. Mm-hmm. Il y a des sketchs de Laurent Gérard qui me font rire. Parce qu'il y a la fascination de la voix.
Il est très bon imitateur.
Il y a la mutation, donc c'est assez fascinant. Il y a pas mal de gens qui sont dans ce livre, de chanteurs notamment, ils les imitent. Et il y a parfois des... Voilà. Et ben ça peut me faire rire. Bon, après, ce qui me fait rire, c'est les Marx Brothers, c'est les comédies de Lubitsch. Oui, beaucoup au cinéma, en fait. Ce qui me fait rire, c'est les films des frères Cohen, ou le talent qu'ils ont pour camper des abrutis américains, mais de le faire de façon évidemment très, très subtile et très distanciée.
Les fautes pour lesquelles vous avez le plus d'indulgence ?
Les fautes de mémoire.
Votre idéal de bonheur terrestre ?
Maintenant.
Vous avez le sentiment d'avoir changé ?
Bon, comme disait Malraux, vivre, c'est transformer de l'expérience en conscience. Donc, fatalement, par inertie, le temps qui passe fait sans doute que j'accrois vaguement. Mais en même temps, je perds des neurones tous les jours. Et je vais vous dire un truc bizarre, mais fondamentalement, je pense que j'étais assez constitué vers 6-7 ans. Il y a un noyau comme ça qui est là, qui sans doute n'a pas vraiment varié. Y compris, d'ailleurs, dans la fascination pour la chose écrite, comme lecteur, puis en essayant ensuite soi-même de devenir un auteur.
Et pour finir, état présent de votre esprit ?
État présent de mon esprit, affairé.
Merci beaucoup Marc Lambron.
Merci à vous.
Nous ne saurons jamais complètement qui vous êtes. Vous nous avez donné un petit aperçu tout de même. Et un grand merci pour ça. De vive voix, c'est le titre de votre livre aux éditions Grasset.
Merci à vous.
Merci à vous.
Canal Académie.